bienvenue au pays des droits de l'homme, de l'exclusion, de l'exception culturelle, des discriminations. Là où on entasse les arabes et les noirs, comme de sales vulgaires souris de laboratoire. Au royaume de la manipulation et du silence, ça te parle de mixité, de mélange, d'échange et de différence, de tolérance, laïcité pour se donner bonne conscience, alors que la haine raciale sévit dans la plus grande indifférence. Franchement, tu veux savoir ce que j'en pense et qu'elle est belle. Elle est belle la France.
Elle est belle la France, avec son cortège d'indécence. Ces criminels de la petite enfance qui siègent dans les hautes instances. Ces ministres en vacances quand suffoque la vieille France. Papy ne fait plus de la résistance, il meurt de chaleur en silence. Dans la plus grande indifférence, celle de ses enfants, celle de son voisin d'en face. Elle regarde ses familles africaines entassées dans des cages à poules. Ça prend le feu mais c'est pas grave, c'est que des noirs, ça roule. Tout le monde s'en fout comme de l'an 40, comme du scandale du sang contaminé ou celui de l'amiante. Elle, c'est clochard qui refroidissent en hiver. Seul au passage, respect à l'abbé Pierre qui essaie de sauver les meubles. Entre nous, elle a pas fait long feu, la fronte en bas. Je crois qu'on peut même dire qu'elle a mangé ses verres. Aux pauvres, on ne tolère pas le moindre écart. Tolérance zéro pour les ouvriers, les chômeurs et les smicards. Ils s'en sont pris plein la gueule, en plus faudrait qu'ils la ferment. Cette bande de feignants qui ne savent que se plaindre et faire crève. À côté de ça, ces soi-disant serviteurs de l'État continuent à magouiller sur le dos du tiers-État. Fausse facture, emploi fictif, détournement de fonds, sans problème, ils s'en mettent plein les fouilles, et j'en place une pour mon idole. Notre président de la République, qui depuis 10 ans pourrait être en tôle, à cohabiter avec Mohamed et Ben Hammer. Hey, si vous ajoutez le bruit et l'odeur. Elle est belle la France, qui déploie une véritable armée pour capturer l'ennemi public José Bové. À côté de ça, ces messieurs du CSA et de l'UMP finiront par s'en sortir blanchis et innocentés. Pas comme ce jardinier arabe répondant au nom singulier d'Omar Radad, analphabète, pauvre musulman, pas de chance. Et ouais monsieur Radad, elle est belle la France.
Voilà, c'était le ministère des Affaires Populaires avec un titre extrait de leur album que je vous conseille. Qui s'appelle « Elle est belle, la France ». Voilà, on va en parler de cette belle France.
Oui, elle est terriblement belle. Et pour vous donner quelques chiffres de cette très belle France, 422 condamnations à de la prison ferme. Ça, c'est les chiffres pour la répression des émeutes de novembre. 4350 arrestations et 71 peines de prison ferme. C'est pour l'instant les chiffres, ça, de la répression du mouvement du printemps 2006. On reçoit donc ce soir trois personnes qui vont nous parler de tout ça. D'abord, on reçoit Simon du collectif À toutes les victimes.
Bonsoir.
Lire, qui est du collectif contre la répression du mouvement du printemps 2006, qu'il ne faut pas qualifier de mouvement anti-CPE, d'ailleurs, suite à de longues, longues discussions. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux de le qualifier ainsi. Et Combe du syndicat de la magistrature. Donc on va peut-être commencer avec Simon, ou bien non, d'abord je voulais d'ailleurs parler de l'analyse que le gouvernement en fait de ces deux mouvements, puisque assez récemment on en a eu deux exemples éclatants, puisque hier c'était Monsieur Clément, le ministre de la Justice, qui a relancé les pistes de travail pour réformer l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, donc qui prévoit d'ouvrir davantage de centres éducatifs fermés. Et puis Monsieur Sarkozy, hier, dans sa présentation du projet CESEDA, a rappelé qu'on voyait bien qu'on avait beaucoup de problèmes avec l'immigration à cause du problème des émeutes des banlieues en novembre. Donc il établissait un lien direct entre les deux choses. Voilà, donc on va peut-être commencer justement sur les banlieues avec toi, Simon. Donc tu es dans le collectif À toutes les victimes.
Oui.
Déjà, tu pourrais nous expliquer comment s'est créé le collectif, pourquoi.
Alors, pour ceux qui n'avaient pas écouté il y a 3 semaines, parce que j'ai déjà été invité pour annoncer un concert de soutien.
Brièvement,
oui, un concert qui demandait l'amnistie le 23 avril au Bataclan. On est un collectif de personnes qui habitent en banlieue, majoritairement, on a la trentaine, et on s'est constitué en collectif courant du mois de novembre, quand on a vu que personne se bougeait là-dessus concrètement. Un grand vide du côté des politiques, aucune déclaration en faveur des gens qui, comme nous, habitons dans les cités HLM, quoi. Donc on s'est pris par la main, on a monté notre collectif. Le but, c'était de faire passer une autre information, pas forcément un truc à la Indy Media, mais simplement prendre les brèves qu'il y avait dans les journaux, qui étaient en 4e page, et les mettre en 1re page sur un site internet qu'on a monté. L'autre chose, c'était mettre en contact les différents collectifs de soutien qui s'étaient créés localement, et essayer de faire passer les informations, commencer un petit peu à faire, faire passer un message différent. Et puis, on s'était fixé aussi pour mission de faire quelque chose pour ramener un peu des sous pour les gens qui avaient dérouillé, que ce soit la personne qui avait perdu la voiture sur le parking ou celui qui avait, sous le coup de la colère, brûlé la voiture.
Ok, donc vous défendiez à la fois ceux qui ont été présentés dans les médias
C'est super bête. Moi, c'est parti d'un truc grégaire. Hein. Je défends ma pomme, j'habite en cité, c'est sur mon parking que ça se passe. Donc le gamin qui fout le feu, je le connais. Le gars qui a sa bagnole qui brûle, je le connais aussi. On est dans le même immeuble. On nous a fait croire que le pays était coupé en deux, avec d'un côté la France profonde, travailleuse, laborieuse, qui défend des valeurs tatati, d'un côté, et de l'autre côté, il y aurait eu des gens qui auraient creusé des tunnels souterrains et qui installent des trafics de drogue et des mosquées dans nos caves, tatata, enfin, des conneries. Non, en fait, la réalité est vachement plus simple que ça. Ça a pété de manière nationale, de manière assez... sur ce coup-là, il y a eu un... On y reviendra peut-être avec la personne du syndicat de la magistrature. Ce qui a mis le feu aux poudres ce coup-là, plus qu'avant, c'est que pendant une semaine, comme il n'y a pas eu d'instruction ouverte ou quoi que ce soit, les politiciens, ils ont le droit de dire n'importe quoi. Et pour la première fois, il n'y a pas eu « la justice va faire son travail » ou ceci ou cela. On a eu droit à un ministre de l'Intérieur et un Premier ministre qui ont pu dire les pires conneries. Que ceux qui étaient... que Ziad et Bouna, qui sont morts dans des conditions tragiques, finalement, c'était des voyous et c'était bien fait pour leur gueule.
En oui, gros, parce que pendant plusieurs ils avaient
fait un cambriolage, etc. Ouais. Qu'après, le fait d'insulter des mamans qui sortent de la mosquée après la nuit du destin et qui sont un peu, complètement dans le gaz lacrymogène parce qu'il y a une cartouche de gaz qui aurait été balancée, on ne sait pas par qui, même si on sait maintenant que la cartouche de gaz lacrymogène, elle appartenait aux forces de l'ordre, mais ce n'est pas forcément des policiers qui lancent. Donc, des fois, c'est les cailloux, ils volent, c'est pas nous qui les. Tu vois. Enfin, bref, tous ces trucs-là, ça a fait monter la pression. Et après, le grand truc génial, c'est qu'on n'y a vu que du feu, dans le sens où ils nous ont fait croire que la France entière, elle a cramé. Alors que, localement, les endroits les plus durs, je crois que ça a été Toulouse, où ça a duré 6 jours, un truc comme ça, et dans des coins très localisés, à l'heure actuelle, on est infoutu de nous dire combien il y avait de gamins dans la rue. Et quand on est un peu sur place, moi, dans la ville où je suis, ça a pas brûlé. 15 personnes, les Ulysses, c'est pépère. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de machin, etc. Mais quand on connaît un peu le 91, on sait que ça a bougé à la Grande Borne. À la Grande Borne, il n'y avait pas que des gens de la Grande Borne. Ça se parle, ça sait, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu, l'expression d'une colère. C'était pas pour jouer ou quoi que ce soit, etc. Il y a un ras-le-bol. Il y a quand même un terreau de misère qui est une misère matérielle, misère morale qui est là. Et le mépris qu'on endure depuis un moment, il fait que ça pète. Et tout est fait pour que ça recommence, puisque c'est toujours la faute des mêmes, etc., etc. Enfin, après le mois de novembre, ce qui a été terrible, ça a été la curée médiatique, surtout. En plus du traitement judiciaire et policier de l'affaire. Parce que l'occupation militaire des quartiers, on l'a eu après. L'état d'urgence est tombé. Enfin, l'hélicoptère au-dessus de la tour, moi, j'y ai eu droit pendant un bon moment, sans aucune raison, alors qu'il n'y avait rien. Il se passe des trucs sur le parking. Pourquoi t'éclaires au 6e étage? Enfin, c'est des trucs comme ça, il faut l'avoir vécu au bout d'un moment, c'est vraiment stressant. Donc tous ces trucs-là, mis bout à bout, ça fait mal. Le traitement médiatique, il a été terrible et déshonorant. Le traitement judiciaire, je pense que la personne du syndicat de la magistrature va dire un petit peu dans quelles conditions la justice a été amenée à travailler. Et le traitement policier, ils se sont lâchés. Hein. Quand on voit des reportages de TF1 où les mecs ils disent clairement qu'ils ne se sont jamais autant marrés pendant ces 3 semaines... Ça veut dire ce que ça veut dire. Faudrait peut-être aussi revenir un peu sur le rôle de ce que c'est qu'un adulte dans un quartier et ce que c'est qu'un mec en uniforme, s'ils font partie d'une bande rivale ou pas, ou quoi que ce soit.
Oui, voilà.
Enfin, y a plein de trucs à dire.
Et justement, sur peut-être plus précisément, puisqu'on va essayer de... Le lien entre vous trois, c'est quand même sur la répression. Comment toi tu l'as vécu et qu'est-ce que tu veux en dire précisément là-dessus?
La répression, elle a été brutale, implacable, et elle a servi, elle s'est servie de justification toute seule. C'est, il se passe un truc dans un coin, donc partout il y a des gens qui vont ressembler à ça ou qui vont avoir le même mode de vie. Faut taper dur et fort pour n'importe quoi. Ceux qu'on ramassait, c'est pas forcément ceux qu'on foutu le Bronx. Hein. C'est celui qui court le moins vite qui se fait attraper. C'est la maman d'origine pakistanaise en garde à vue pendant 24 heures parce que elle travaille, elle a 4 gamines, elle a un gamin, le gamin il a 16 ans, c'est un petit chétan, il fait n'importe quoi, elle n'arrive pas à le tenir. Et ben il fait une bêtise, il se fait choper et on l'a puni pour l'exemple, il y a sa photo dans 20 minutes. Et il y a sa bif au journal de 23 heures. Enfin, ça veut dire détruire une famille. Il y a eu tous ces trucs-là. Enfin, la répression, elle a été exemplaire dans la manière dont elle a été donnée et dans la manière dont elle a été mise en scène. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important. Faut voir les chiffres. Hein. 5200 arrestations. Il y a à peu près 600-700 peines qui ont été prononcées, prison, etc., etc. Enfin, des choses assez dures. On a énormément de mal, d'ailleurs, quand on écrit aux tribunaux, ils veulent pas nous dire. Quand on écrit en tant que simple citoyen, il s'est passé ça sur machin, etc., on n'a aucune réponse. On est en train de trouver un moyen, nous, pour avoir des réponses, mais soit ils sont débordés, enfin, je ne sais pas si vous avez, vous, des chiffres au syndicat de la magistrature, mais à chaque fois qu'on a écrit à certaines juridictions, ça a été non, merci, au revoir. Il y a même carrément des gens qu'on a au téléphone qui se sont dit, c'est pas vos oignons, dégagez. Donc ça a été étonnant de voir la justice comme ça se replier sur elle-même, parce que c'est une institution qui est au service de tous. Hein. Moi, je suis citoyen, je veux savoir, j'ai le droit. Donc, il y a eu au niveau de la quantité des peines et de la dureté des peines prononcées à ce moment-là, des choses assez terribles. Là où il y avait du sursis, il y a du ferme, et là où il y a du ferme, on prend le double. Quand on regarde un petit peu avec le CPE, il y a à peu près autant d'arrestations sur un temps plus long. Donc, ça veut dire que ça a été moins concentré dans le temps. Et les peines de prison, on aboutit à quoi ? À 200 personnes qui mangent du sursis ou du ferme en tout. On voit bien que le traitement policier est le même, on attrape en grande quantité. Par contre, on va pas cogner pareil sur un type calbac que sur un type qui l'a pas.
On va discuter de ça parce que je vois qu'il y a des sourires. Mais en tout cas, au syndicat de la magistrature, comment vous avez vécu cette période-là et qu'est-ce qu'on peut en dire des émeutes de cet automne ?
Sur les émeutes, nous, on a tout de suite réagi en expliquant que c'était, qu'on avait une réponse du gouvernement qui était une réponse purement guerrière à une situation qui révélait une crise sociale dont on connaît tous les sources, hein, au moins pour partie. Ce qui a pour nous focalisé l'attention, c'est deux choses. C'est d'abord la manière dont on essayait de mettre la justice en ordre de bataille pour participer à cette répression aux côtés de la police ou main dans la main avec la police. Et la demande du garde des Sceaux que soient mises en place des cellules au sein des préfectures, par exemple, c'est-à-dire que les magistrats du ministère public, c'est-à-dire ceux qui introduisent les actions et qui saisissent les tribunaux, qu'au lieu d'être dans leur tribunal à faire leur travail normalement, ils soient dans les salles de commandement des préfectures. Bon. Ce qu'on peut observer, là où je serais pas aussi radical sur le fait que la justice s'est complètement laissée faire. C'est pas tout à fait le cas. Il y a un certain nombre de parquets, par exemple, qui ont refusé cette logique-là, qui sont pas allés dans les préfectures. Ça veut pas dire qu'ils ont fait un boulot très différent, mais ils ont pas accepté ça. Premier point.
Je parle sous le coup de l'émotion. C'est vrai que par exemple, quand on regarde notamment au tribunal pour enfants de Bobigny, il y a énormément de pondération dans la manière dont les affaires ont été traitées. Mmh. Par contre, quand on regarde un petit peu comment ça s'est passé à Lille ou à Lyon, voilà.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, sur Bobigny, il y a même eu une dénonciation d'une blacklist qui a été instaurée.
La blacklist, c'était sur autre chose. Ah, c'était d'accord. Sur le contentieux des étrangers. C'était pas sur les émeutes. En revanche, il y a eu des contestations, notamment de la part d'un certain nombre de politiques, y compris de gauche d'ailleurs, sur le travail des juges pour enfants. Mais ça, c'est un autre sujet. La situation de Bobigny a été très intéressante parce qu'elle nous a servi. Bon, il se trouvait qu'on avait des informations parce qu'on a pas mal de gens dans cette juridiction et d'ailleurs même des gens pas de chez nous, en l'occurrence le procureur de la République est venu confirmer ce qu'on disait, à savoir que précisément un certain nombre de choses que disait le ministère de l'Intérieur à ce moment-là, le ministre lui-même, c'était l'histoire des caïds, etc., que ça se retrouvait pas du tout, mais alors pas du tout dans ce qu'on voyait dans les juridictions, ce qu'a confirmé ensuite le fameux rapport DRG qui a été sorti par le Parisien. Hein. Donc nous, ce qu'on a malgré tout dénoncé, c'est les actes politiques qui ont été posés par la voie de 3 circulaires successives pour, encore une fois, mettre la justice en ordre de bataille, lui donner les recettes pour réagir de la manière la plus violente face à ce qui se passait, qui était pas rien hein, à certains endroits, mais qui pouvait pas laisser les institutions inactives et indifférentes. Mais là, vraiment, on avait des recettes. Je veux dire, on demande aux magistrats d'utiliser la qualification d'association de malfaiteurs. Dans certains cas, moi, je connais un juge des enfants à Créteil qui a été saisi pour deux mineurs de moins de 16 ans sur cette qualification d'association de malfaiteurs parce qu'on les avait interpellés avec un fond de bouteille d'essence. Bon, c'est quand même assez, assez délirant. On a ça, on a l'appel à utiliser largement la comparution immédiate, ce qui débouche, et c'est un vieux, c'est quelque chose qui est bien connu maintenant, ce qui débouche très mécaniquement, pas forcément systématiquement, mais très mécaniquement sur le prononcé de peine d'emprisonnement. Hein, et c'est fait pour ça, donc c'est pas très
étonnant. Et est-ce que ça a été encouragé? Est-ce qu'on peut dire que ça a été
encouragé? Ah, ça a été demandé. C'était la politique du gouvernement. Maintenant, ça a été suivi d'une manière inégale suivant les juridictions, parce que les magistrats, même s'ils sont relativement dociles, ont une certaine gardent une certaine indépendance, en tout cas certains et à certains endroits. Et donc, la situation n'a pas été partout la même. Voilà, là-dessus, on est. C'est
pas ce que tu disais. Après, en constatant le nombre d'inculpations, on peut constater que l'ordre a bien été reçu de la part de la justice, tout de même.
Oui, tout à fait. Assez mécaniquement.
Mmh. Il faut quand même voir un truc, c'est que la justice a bossé dans des conditions délirantes, parce qu'il faut voir le nombre de gens qu'on leur a ramenés. Il faut voir un truc. Hein. C'était l'état de siège. C'était, voilà, on était en guerre. C'était toutes les institutions unies contre la racaille. La racaille, c'est de 7 à 77 ans, et ça se reconnaît physiquement aussi, parce que c'est ça qu'ils ont fait passer dans les médias. Dans le nord de la France, 80% des gens qui ont participé aux révoltes, c'était des Blancs. Ça, on le dit pas. On le cache. Pourquoi ? Ben, c'est bien connu. Un mec qui a des origines polonaises ou italiennes à 4 générations, donc qui est ce qu'on appelle un Français de souche, il ne peut pas être l'ennemi de son propre pays. Non, il n'en a rien à faire de la France en ce moment. Il vit dans des conditions matérielles assez proches d'un type qui habite à Bondy, du même âge, et il a à peu près le même sentiment par rapport à l'injustice et par rapport aux gamins qui sont morts. Ils écoutent la même musique, ils s'habillent de la même manière, ils parlent quasiment le même argot. Il y a l'accent du Nord qui est un peu bizarre. Je m'excuse auprès des gens du MAP s'ils nous entendent. Je les aime bien par ailleurs, mais voilà. Non, le truc plus sérieusement, la justice, on a amené par paquet des gens. Et c'est pas facile pour un juge de juger 15 personnes et d'en juger une, quoi.
Oui, moi je voulais savoir si c'était pas un peu compliqué, ou si ça a été compliqué ou plutôt facile de réunir un peu plein de gens de différentes villes de banlieue. Quel était le point commun? Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers eux? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous? Est-ce qu'il y a eu un besoin d'aller vers eux? Est-ce que c'est eux qui ont sorti un moment, bon là il faut qu'on s'unisse, comment ça s'est passé?
Alors c'est précisément par rapport au collectif, tu veux dire?
Ouais.
Un collectif, nous on connaît des gens sur Arcueil, moi je connais des gens sur Arcueil, moi je suis des Ulysses, on a rencontré des gens de Saint-Denis, il y a comme un grand vide. Il y a un grand vide, parce que toutes les organisations, on va dire, un peu institutionnelles, elles font pas ce truc-là. Elles parlent en leur nom de manière nationale, mais localement, en bas du bâtiment, il y a personne. Et c'est un besoin qu'il y a, et on est en train d'essayer de lancer une dynamique avec pas mal de gens, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, qui nous contactent. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, parce que c'est un travail qui est pas gratifiant, mais qui est, on va dire, médiatiquement, etc. Nous, on s'en fout, on fait pas ça pour la gloriole. Mais il y a vraiment un besoin que tous, autant qu'on vit les mêmes choses, on est dans les mêmes conditions. Personne qui a fait un reportage qui n'est pas encore sorti là-dessus. Disait, tu commençais la phrase à Strasbourg, tu passais le milieu de la phrase sur Lyon, tu terminais sur Lille, et tu filmais le tout sur Paris, et c'était la même chose. Nos vies, elles sont les mêmes dans ces quartiers-là.
Et
la seule petite exception, c'est peut-être Marseille.
D'ailleurs, il y a des collectifs, ce que j'ai vu sur votre site, quoi, vous renvoyez des liens vers différents collectifs qui se sont constitués, tu pourras peut-être en parler, sur différentes villes, justement.
Alors, c'était des comités de soutien, on a renvoyé vers ça, parce que il y a eu une telle urgence. Si les juges et autres étaient débordés, nous, enfin les gens qui habitent un peu dans les quartiers étaient débordés aussi. Une association comme Diversité, elle suit encore une cinquantaine de familles, et les jugements des mineurs sont pas encore finis. Il y a eu les premiers jugements de mineurs qui sont tombés, c'était début janvier, c'est des gamins de 16 et 17 ans qui ont pris 11 et 12 mois ferme, quoi, pour une bagnole. Enfin, c'est du délire. Donc c'est des gens qui sont habitués à se battre, etc. Mais comment dire, c'est vraiment difficile, parce que le ghetto, il existe maintenant en France. C'est-à-dire que les gens de ces associations-là, qui sont sur place, ils sont fatigués au bout d'un moment parce qu'ils sont pas nombreux. Il y a besoin de sous, un petit peu d'oxygène, etc. Mais les sous, les subventions, elles arrivent pas. Elles arrivent quand il y a vraiment un drame terrible. C'est comme ça que les gens d'au-delà des mots de Clichy-sous-Bois, ils sont organisés. La mairie, elle a filé un petit coup de main, puis ils se sont bagarrés, ils sont organisés entre eux, ils ont réussi à mettre des sous de côté entre eux et à se constituer et à faire quelque chose. Mais partout ailleurs, c'est super dur. Donc les petits collectifs, il y a des liens, je sais pas s'ils existent encore ou s'ils tiennent encore. Mais individuellement, on a des contacts, ça c'est quelque chose qui est sûr. Ouais.
D'accord. Et tu parlais justement des subventions, et peut-être qu'on peut évoquer justement le fait que sur les émeutes de novembre notamment, la répression n'était pas uniquement policière et judiciaire, elle s'est traduite aussi par une répression sociale, avec par exemple le fait que les allocations soient coupées aux parents d'enfants délinquants. Est-ce que tu pourrais parler un peu délinquants entre guillemets naturellement?
Il y a tout ce truc-là. De toute façon, ça a été, je pense, finalisé dans la fameuse loi sur l'égalité des chances. Et là, on pourra faire le lien avec le mouvement du printemps. Nous, on est à l'automne. Chacun sa saison, c'est une question d'âge. La maman qui fait de la prison, qui est punie médiatiquement parce que les gamins sont pas sages. Ça c'est un fait. Après, on a parlé de supprimer les allocs, etc. Mais au niveau des lois, nous concrètement, je parle pas en tant que juge, je parle en tant que personne de la vie de tous les jours. On voit pas encore les effets de tout ça. Simplement, on sait que ça va nous arriver dessus. Mais on a promis beaucoup de choses aussi. On a promis que les aides pour les assos seraient maintenues. Walou. Enfin, il y a plein de trucs. Enfin, rien. Rien, si ce n'est que maintenant, on a des nouveaux contrats de travail. On va pouvoir bosser à 14 ans. À 15 ans, un gamin, il peut bosser de nuit. C'est super.
Et même Clément suggérait qu'à partir de 13 ans, on fasse une sorte de peine. Enfin, j'ai plus le texte sous les yeux, mais une peine de réinsertion par le travail ou d'initiation au travail, naturellement non rémunérée. Et on lui a juste dit que c'était anticonstitutionnel. Donc, c'était pas possible.
Now
Voilà, c'était Rachid Taha. En arabe, je ne le prononcerai pas. En français, ça signifie « faites les payer », les politiciens, entre parenthèses. Voilà, vous êtes toujours sur FPP dans les oreilles loin du front. On parle répression des mouvements de novembre 2005 et du printemps 2006. Donc on vient de parler avec Simon II à toutes les victimes. Et là, on va aborder la question du printemps 2006 avec Lire du collectif contre la répression de ce mouvement-là. Donc Lire, déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer quand, avec qui, comment s'est constitué ce collectif?
Bah en fait, ce collectif, il vient d'abord du collectif de défense des lycéens. C'est eux qui, il y a un mois, peut-être même non, un mois et demi, ils ont fait une réunion ouverte à la Bourse du Travail, ils ont fait diffuser cette information, et du coup, il y a des gens qui sont venus, dont moi, parce que j'avais un ami qui venait d'être condamné en comparution immédiate, enfin voilà quoi, ça m'a un petit peu énervée, donc je suis venue pour voir, et c'est là où ce collectif donc de défense du mouvement du printemps 2006, enfin pour Paris, c'est créé. Voilà, c'est passé comme ça.
D'accord. Et il s'en est créé, tu dis pour Paris, il s'en est créé d'autres ailleurs ou...
Oui, il y en a d'autres ailleurs. Mais ailleurs, en fait, c'est un peu plus facile pour eux, étant donné qu'en province, en général, il y a une, voire deux facs mobilisées. Donc, ce qui fait qu'en général, les réseaux sont plus serrés, c'est beaucoup plus facile de savoir qui a été arrêté, de se tenir au courant. Alors que sur Paris, on voit bien, rien que la mobilisation, elle a eu du mal à s'organiser. Les coordinations parisiennes, c'était le bordel. Ça s'est mis... moins rapidement que les coordinations nationales. Enfin, à Paris, c'est un peu plus difficile de coordonner tout ça, quoi.
Voilà. D'accord. Et donc là, qui sont les différentes personnes, justement, qui constituent ce collectif?
Alors, pour beaucoup, c'est les gens qui étaient avant dans le collectif des lycéens. Donc, c'est vraiment assez varié, autant pour les personnes qui y étaient avant que ceux qui sont rajoutés. Il y a autant des gens qui sont à la CNT qu'au PS aussi, LCR, FCPE, enfin, ou non organisés. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a des débats, souvent, mais on essaye en général d'avoir une ligne commune pour être efficace, quoi.
D'accord. Et donc votre action, vous, elle se manifeste comment? C'est quoi vos objectifs?
Alors, donc les objectifs, c'est plutôt donc information, recensement et soutien. Voilà. Donc l'information, c'est essayer d'intervenir auprès des facs, de faire des diffusions de tracts, des trucs comme ça pour dire qu'il y a eu de la répression. C'est pas juste à la fin d'une manif, on dit 200 interpellations. Oui, mais après quoi? Voilà. C'est de faire que les gens soient sensibles à ça, de recenser parce que c'est pas facile. En général, quand c'est des étudiants qui sont arrêtés, des gens qui sont insérés dans des réseaux militants, on peut savoir assez facilement. Mais pour tous les autres, et notamment, des gens de banlieue qui viennent manifester ou pas, qui sont attrapés dans ces manifs, on n'en entend plus jamais parler, quoi. Voilà. C'est essayer de grappiller. Donc il y a des gens qui, pendant le mouvement, sont allés assister le plus possible aux comparutions immédiates, qui passaient toute la journée. Mais bon, là encore, c'est un problème de bras, quoi. On n'a pas assez de monde pour pouvoir suivre tout le monde. Voilà, donc recenser, suivre les procès, donner des dates pour être présent, suivre pour voir qu'est-ce que ça donne, parce que c'est difficile d'avoir des chiffres à chaque fois qu'on demande...
Vous avez le même problème qu'à toutes les victimes.
Voilà, pareil, on n'arrive pas à avoir des chiffres précis. Après, voilà, c'est le soutien financier surtout, parce qu'il y a des gens qui se prennent donc des amendes, et il y a les frais d'avocat, parce que c'est quand même pas la même chose quand on a un avocat commis d'office que quand on a un avocat militant. Il y en a quelques-uns qui travaillent à Paris, et la défense, ça n'a rien à voir. Donc, pour ça, on essaie de recueillir des sous, et ça, c'est vraiment pas facile, parce que, il y a le problème des casseurs, c'est ça.
Oui, justement, on allait aborder la question, est-ce que vous défendez uniquement les gentils casseurs, naturellement blancs, et pas du tout les méchants casseurs d'origine maghrébine, ou est-ce que vous avez une position un peu différente?
Alors, quand je dis le problème des casseurs, c'est le problème des gens qui peuvent, par exemple, soutenir le mouvement, mais qui refusent de donner de l'argent en disant « Ah ben non, moi, j'ai pas donné des sous. » Alors, soit à ceux qui ont cassé tout court, ou ceux qui ont tapé des étudiants. « Ah, mais c'est hors de question. » Voilà. Alors, nous, au collectif, dès la première réunion, ça s'était posé tout de suite. C'était une réunion qui était quelques jours après la manif du 23 aux Invalides, où il y a eu des bandes de personnes qui sont venues vraiment casser la gueule et voler sur les manifestants. Voilà. Moi, franchement, j'ai eu assez peur ce jour-là. Et ça a choqué beaucoup de monde. Et donc, on en a discuté dès le premier soir, en se disant, mais qui on défend? Et alors, du côté des étudiants, la question, elle était assez claire. C'était que c'était la même... Nous, notre mouvement, il venait des banlieues quand même, parce que c'est à la suite de ce mouvement-là qu'il y a eu la loi sur l'égalité des chances. Et c'est pour ça que le mouvement TCPE sort de question. Voilà. Et donc, on s'en était rendu compte. Et pour beaucoup d'étudiants... on n'avait pas à se diviser, c'est difficile de savoir parce que, enfin comment dire, on ne pouvait pas leur parler, on ne pouvait pas parler à ces gens-là qu'on avait croisés dans ces manifestations, mais on ne voulait pas, on n'avait aucune envie de se mettre en opposition non plus. Parce qu'on se disait, c'est aussi, c'est un peu la même rage qu'ils ont et on n'a pas à avoir la même attitude que le gouvernement a vis-à-vis d'eux. Donc, sur le collectif, ce qu'on s'est dit, c'est que on va, notre aide, on la porte à tous ceux qui sont arrêtés suite, enfin, dans une manifestation, dans le mouvement. Voilà. On va pas se poser la question. En fait,
oui. Vous avez dit, toutes les personnes qui sont arrêtées sur mars-avril autour des manifestations vont être défendues.
Voilà. On va pas se poser la question de est-ce qu'il est accusé d'avoir volé un portable ou pas. Voilà, parce que de toute façon, il peut être accusé à tort. Enfin, on n'est pas là pour juger à la place. Donc, tous ceux qui font appel à nous ou qu'on arrive à choper, c'est traité de la même manière.
D'accord.
Voilà,
je crois
le consensus.
Simon voulait intervenir sur cette question.
Ouais, il y a surtout ce qui est vachement bien avec le casseur de banlieue, c'est que c'est quelqu'un qui est physiquement identifiable. Et forcément, dès que tu vois quelqu'un qui est habillé avec une casquette,
une capuche.
Non, même pas de capuche. Il suffit juste qu'il soit noir ou maghrébin ou blanc, mais avec une chaîne en or, grain de café, un accent, tu vois, un truc. Là, tu dis tout de suite, ce type-là, il vient pour te tuer parce qu'on l'a dit à la téloche. Il faut quand même voir un truc, la fameuse manif du 23 aux Invalides, les premières bagarres qu'il y a eu, c'était entre personnes comme ça, et c'était un grand derby de l'Essonne qui avait lieu en fin de cortège, Tarteret contre Pyramide. Ils se sont mis des peignées pendant, on va dire, les deux premiers kilomètres. Ils ne se sont pas intéressés aux autres, ils se sont réglés des comptes entre eux, les mômes. Et la seule chose qui a été intéressante, c'est que les premiers adultes qui ont bougé pour essayer de mettre quelque chose dans l'ordre, c'était le service d'ordre de la CGT. J'ai cru que c'était des policiers en civil. Parce que ce qui est quand même génial dans ces manifs, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai vu des flics intervenir sans le brassard orange et des mecs qui appartenaient à un service d'ordre syndical mettre un brassard orange. J'imagine même pas la confusion dans la tête d'un môme de 16 piges, il sait même pas qui est le flic qui fait quoi.
Oui, mais d'ailleurs, la CGT qui a carrément donné des gamins aux policiers.
Le truc qu'il faut quand même voir, c'est que les mômes, quand on en parlait à la radio, c'est la grande manifestation nationale va avoir lieu, il va y avoir des jeunes de banlieue qui vont monter, mais aussi des lycéens. Le lycéen, c'est aussi un jeune de banlieue. Et par contre, à l'entrée des gares, fouille, tabassage, et à l'entrée des manifs aussi, fouille, tabassage, etc. Je pense qu'on devient beaucoup plus bête et méchant quand on s'est fait passer à tabac dans un camion, quoi.
Mais d'ailleurs, il y avait des mots d'ordre qui circulaient de blocage, en fait, de toutes les entrées de Paris au moment de grandes manifs. Je crois que c'était courant mars que ça se passait, ça. Le fait qu'on ne laissait pas rentrer simplement tous les types qui venaient des banlieues. Et puis même, de toute façon, on voyait bien sur les manifestations une sorte de peur vis-à-vis de tous les mecs des banlieues, alors qu'une bonne partie était là parce que leur lycée était en grève pour le mouvement du printemps 2006, donc contre la loi sur l'égalité des chances. Et voilà, quoi.
Alors, ça serait bien d'avoir votre avis, justement, comme du syndicat de la magistrature, sur... Là, on a évoqué deux moments, deux saisons, mais aussi deux moments de lutte. Est-ce que vous voyez un lien au niveau de la justice sur la répression qui s'en est suivie?
Bon, moi, il y a quand même un point que j'ai pas abordé tout à l'heure sur le mouvement de novembre très spécifique, qui est le recours à l'état d'urgence. Oui. On pourra y revenir, c'est quand même quelque chose d'extrêmement spécifique et on n'y a heureusement pas eu à nouveau recours à l'occasion du mouvement de ce printemps. On pouvait pas totalement exclure que ça finisse pas par arriver, sauf que le mouvement a été suffisamment encadré institutionnellement pour que ça soit exclu assez rapidement. Bon. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a eu effectivement des dérives avec des pratiques que je qualifierais de pratiques d'exception. Enfin, pratique d'exception, pas pour ceux qui habitent dans l'Essonne, mais pour ceux qui habitent en centre-ville à Paris. C'est-à-dire que les contrôles qu'on a vus à Montparnasse au moment des manifestations de ce printemps ou à Châtelet pour effectivement contrôler ceux qui viennent des banlieues, ceux qui vivent dans les banlieues, ils sont malheureusement habitués, sauf que là, on avait déployé encore plus de moyens que d'habitude. C'est à ce titre-là que je trouve que le parti qui a été pris par le collectif de défense est assez sain, parce qu'un des éléments communs qu'on peut trouver, c'est que il y a un traitement de masse. On est dans le traitement de masse avec tout ce que ça implique. Ça veut dire que les magistrats, même s'ils sont de relativement bonne composition, eh ben, ils vont avoir un risque assez mécanique à taper plus, d'autant plus qu'on a eu droit à une circulaire le 24 mars 2006, comme on en a eu plusieurs en novembre, pour dire qu'il fallait taper fort, qu'il fallait utiliser la comparution immédiate, et qu'il fallait pas laisser passer tous ces comportements tout à fait scandaleux qu'on voyait aux alentours des manifestations. Et on sait que dans ce traitement de masse, ben, on a des éléments très très fragiles, ne serait-ce que des éléments de preuve très fragiles, des éléments d'identification des auteurs, de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait, qui sont extrêmement extrêmement fragiles, et on a une tendance aussi à une plus grande sévérité, parce que on est dans un climat. Hein, on est dans un climat créé par ce qui est retransmis médiatiquement, les discours politiques, la circulaire, enfin bon, voilà, et tout ça crée un climat qui induit un certain type de comportement. C'est pas inéluctable, mais c'est un risque. En tout cas, voilà ce qu'on peut trouver de commun. Maintenant, effectivement, on peut quand même observer que la répression du mouvement de ce printemps n'a pas quand même été du même ordre que celle des émeutes de novembre.
Hein, pourquoi, selon vous, prononcée.
Je crois honnêtement, notamment au début, enfin pour moi, pour les témoignages de l'intérieur que j'ai pu avoir, notamment sur la juridiction de Paris, les procédures au début, mais on a eu un peu la même chose en novembre, mais pas tout à fait de la même manière. Les procédures au début étaient mal faites. On avait des gens qu'on interpellait, mais on n'avait pas de procès-verbal. On savait qu'ils avaient été interpellés, les services avaient été interpellés, mais ils disaient pas pourquoi. Donc, en quelque sorte, en termes de preuves, ça se cassait la figure. Et c'est plus au fil du déroulement des événements que on a vu des procédures plus solides qui sont constituées. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a quand même eu finalement des débordements relativement cantonnés. On n'a pas eu les violences n'ont pas atteint le même niveau, même si elles ont, et là-dessus je suis d'accord, et elles n'ont pas, les violences du mois de novembre n'ont pas été générales comme on nous les a décrites, hein, c'était pas la guerre civile, évidemment. Malgré tout, on a eu des actes qui étaient dans leur forme plus violent, plus destructeur que ceux qu'on a pu connaître aux alentours des manifestations. Puis je crois qu'il y avait un contexte politique qui était très différent, c'est que on n'avait pas intérêt à faire monter la pression sur le mouvement du printemps, parce qu'on avait un rapport de force qui s'était instauré, qui était organisé politiquement avec la présence de l'ensemble des principales organisations syndicales, le mouvement étudiant, qui est un mouvement dont qui touche tous les citoyens, si je puis dire, bien sous tout rapport. Hein, parce qu'on en a tous dans notre famille, plus ou moins, alors que les gens de banlieue sont même un peu plus loin, et puis qu'il y a une histoire des mouvements étudiants aussi, et qu'il n'y a pas la même histoire des mouvements de banlieue, enfin, même s'il y a eu aussi une histoire.
En fait, les habitants de banlieue, on est les seuls à ne pas avoir un corps représentatif ou quoi que ce soit. Politiquement, on n'est rien. Socialement, on n'est rien, et de toute façon, comme on n'a pas de sous et machin, etc., en plus de ça, on est coupable de ça. Donc un étudiant, il peut être violent parce que ça s'exprime dans un contexte et il y a une histoire. Nous, ben, je crois que c'est clair, hein. Si on en est à péter ce qu'il y a en bas de chez nous sur nos parkings, on peut pas, parce qu'on peut même pas aller ailleurs, hein. toutes les trucs qu'on nous a dit, pourquoi vous prenez pas d'assaut l'Élysée, pourquoi vous n'allez pas dans le 16e. Je pense que dès que tu commences à sortir du bloc d'immeuble, etc., t'es quadrillé par les ch'tards. Hein. Les cités où la police ne va plus, ça n'existe pas. Quand ils foutent le brassard orange et qu'ils viennent perquisitionner chez toi, ils font ce qu'ils veulent. Ils rentrent partout. Mais tous ces trucs, nous, on compte pas. Donc un étudiant, c'est normal qu'il casse. Un agriculteur, c'est normal qu'il casse. Normal, pas bien ou pas, mais c'est concevable. Quand quelqu'un qui habite un HLM, il est au chômage, il en a marre, ou il est la saison, il n'a pas d'avenir, et on a tué un de ses amis, s'il s'énerve, c'est de sa faute.
Mais d'ailleurs, c'est ça, oui, la différence. C'était un clivage assez profond, et d'ailleurs qui est toujours là, mais même au sein des mouvements militants, quoi. L'idée que les émeutiers de novembre, c'était pas politique, alors que les manifestants de mars l'étaient profondément parce que c'était, je sais pas, plus intellectualisé, parce qu'ils étaient étudiants, etc. Ou Simon, si tu veux répondre et ensuite lire.
Juste pour ça, je dirais que les étudiants, c'est politique. Il y a des mots politiques qui sont dits par le pouvoir, il y a des réponses politiques, blablabla, qui sont données par les étudiants. Nous, on subit. C'est de la survie qu'on fait. Et j'entends vachement le mot lutte, etc. Moi, je lutte pas, je me dépatouille. Je fais avec les moyens du bord et j'essaie de sauver ma peau et celle des gens autour. On en est là. On n'en est pas à dire on va se sauver, enfin on va changer le monde, etc. Juste on voudrait vivre. C'est juste ça. On en est là. Hein. C'est la base.
Lire, tu voulais intervenir.
Ouais, je voulais juste. Je suis quand même parfaitement d'accord avec Simon et je pense que beaucoup d'étudiants l'ont compris que contrairement à certaines aux organisations syndicales qui parlaient de jeunes dépolitisés, de choses comme ça, les étudiants l'ont. Enfin, je pense pour beaucoup, en tout cas, en ont parlé et ont assez réfléchi là-dessus et ont pas voulu faire cette distinction. Par contre, on traite quand même pas les étudiants et les jeunes de la même manière qu'on traite les agriculteurs. Un agriculteur, c'est pas pareil. On peut quand même se faire taper dessus et se prendre la prison ferme et tout ça. Moins que les jeunes de banlieue, ça c'est clair, mais beaucoup plus que les agriculteurs.
Ou les mêmes. Certains profs, vont en prison.
Hein. Ça dépend des agriculteurs.
Chose oui. Bon. Ouais.
On va écouter un peu de musique.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire qui illumine une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire qui illumine une bombe, une balle populaire. Plein de ministères des affaires populaires. Au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrières. En l'eau, de frères, plein de repères, Jacques Brelport, Marley, Aznav, l'Abbé Pierre, notre art populaire, musique d'ici et d'ailleurs, on en a fait un ministère pour un monde meilleur, influence d'influence, de sonorité différente, de Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche, du bon son pour tout le monde, du Joe Dernier jusqu'au grand-père, l'album populaire vers son troisième millénaire, juste pour faire bouger les consciences, passer les préjugés, rien à faire qu'à entrer dans la danse, laisser aller à l'heure, du repli communautaire à l'aube d'une troisième guerre, aux ordres on reste réfractaire, attitude salutaire, que ceux qui joue avec les peurs pyromanes incendiaires. Prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire qui illumine une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire qui illumine une bombe, une balle populaire.
Moi c'est Dias le maquisard, petit fils de Mujahid, le montagnard, sans hymne, sans drapeau, sans nation ni patrie, hybride culturel entre Occident et l'Algérie, contre la haine et la justice, j'ai pris les armes, pour la mémoire de mon peuple, j'ai pris les armes dans ma cible, dictateur et colonisateur, répresseur, esclavagiste, dans mon viseur, en guerre, contre bavure, police, raciste, en guerre, contre inégalité, pouvoir, fascisme, mon hip-hop, j'écris comme on brandit un drapeau blanc, soldat pour la paix, je rime pour les innocents, contre les dictatures, les embargos, les colonies, les bombardements, les invasions, les tyrannies. J'rime pour la révolte, les coups d'état, les rébellions, les mutineries, les résistances et l'insurrection.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire qui illumine une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire qui illumine une bombe, une balle populaire.
C'était toujours le ministère des Affaires Populaires à qui on a décidé de faire plein de pubs parce qu'ils sont vraiment très bien. C'était Bal Populaire, Bal 2LE à la fin.
Ouais, et l'album, il est sorti lundi dernier.
Voilà, décidément, même enfin, Simon, même Simon veut leur faire de la pub.
Non, mais je voulais les remercier parce qu'ils sont venus au concert de soutien qu'on a organisé au Bataclan.
C'est vrai.
Ils sont venus gentiment, ils ont fait un super set et, avec le sourire. Et voilà, bah, si c'est l'occasion d'écouter ça, ils ont fait un carton au Printemps de Bourges. Non, vraiment, c'est des gens bien. Voilà.
Ok. Donc, on est toujours avec Simon, que vous venez d'entendre, de À toutes les victimes, lire du collectif contre la répression du mouvement du printemps, et comme du syndicat de la magistrature, qui va nous permettre de revenir justement sur, sur justement les dérives judiciaires qui ont eu lieu au cours de ces deux mouvements. Du lien justement qu'on a évoqué tout à l'heure entre la police et les juges.
Oui, ce qui s'exprime plus particulièrement dans ces occasions-là, mais c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez générale, c'est l'incapacité relative de la justice à contrôler ce que fait la police, finalement. Dans ces mouvements de masse, les juges se retrouvent avec des procédures essentiellement bâties par les policiers, qui reposent essentiellement sur leurs déclarations, avec en face les dénégations des personnes qui sont accusées. Face à ça, on peut être le bon juge. C'est quand même assez difficile de résister, de démêler le vrai du faux, sauf à prendre le parti que les policiers disent toujours des bêtises, ce qui est parfois vrai, mais quand même difficile à généraliser, surtout d'un point de vue institutionnel, c'est difficile à écrire dans un jugement. Et en même temps, on sait bien qu'il y a bien des moments où effectivement ils font des procédures de bonne ou de mauvaise foi, d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'ils racontent des trucs comme eux les ont vus en se trompant complètement sur l'interprétation qu'ils font de ce qui s'est passé, ou est-ce qu'ils sont effectivement de mauvaise foi et qu'ils bâtissent de toutes pièces des procédures pour faire tenir l'opinion qu'ils se sont fait d'une situation? Bon, ça, on sait que ce problème-là se pose, et il y a extrêmement peu d'outils, sauf quand on a une défense qui est capable de s'organiser. Et de s'organiser sans doute un peu collectivement. C'est-à-dire que la solution vient quand on a des poules d'avocats qui peuvent se monter, constater que, tiens, c'est bizarre, les procédures, c'est quasiment du copier-coller informatique qu'on trouve toujours les mêmes, ou bien qu'il y a eu une telle solidarité entre les acteurs qu'on peut apporter des témoignages qui viennent permettre d'enfoncer un coin dans la procédure bâtie par les policiers, ou que par chance on a une caméra de vidéosurveillance qui pour une fois peut marcher à l'envers et nous dire comment les policiers ont travaillé au lieu de dire de servir aux policiers
quoi
à autre chose.
Quoique à Nation, quand Cyril Ferraz s'est fait bastonner, les caméras étaient mystérieusement débranchées.
Elles étaient mystérieusement débranchées, on n'a pas saisi le juge d'instruction, c'est la police qui fait sa propre enquête sur elle-même, enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais donc voilà, ce qui se révèle très particulièrement à cette occasion-là, c'est ce qu'on connaît aussi beaucoup en banlieue, parce que le coup des outrage rébellion à l'occasion des contrôles d'identité, c'est quand même un grand classique de la vie quotidienne pénale en banlieue, et c'est ce schéma-là quotidiennement de la parole de l'un contre la parole de l'autre, et la parole de l'un qui institutionnellement pèse plus que la parole de l'autre, et c'est inéluctable, et c'est judiciairement extrêmement difficile de résister à ça s'il n'y a pas un minimum de contradiction de grains de sable qui vient s'instaurer. À ce titre-là, nous, on n'était pas en état matériellement, compte tenu des forces dont on dispose, d'intervenir de manière pertinente au moment des deux mouvements, notamment du mouvement de ce printemps, mais on s'est dit que c'était assez tardivement qu'il y avait eu une organisation collective qui se mettait en place. On avait observé qu'au contraire, il y avait une organisation qui s'était mise beaucoup plus rapidement en place au moment du mouvement lycéen. Et sans doute, c'est dommage. Alors peut-être que les clivages banlieue, pas banlieue, n'ont pas eu lieu. Je ne sais pas. Puis d'autres préoccupations.
Et on parlait hors antenne justement à propos de la police et des juges, de ce que toi, Simon, t'appelais une inversion des...
une inversion des rôles, en fait, les deux.
Bah, en fait, moi, je ne suis pas super calé en droit. J'y connais même, enfin, je subis en général. Même si je ne suis pas censé ignorer la loi, je ne connais pas grand-chose, quoi. Je fais partie des gens qui ont été nourris aux séries teloches américaines, donc je suis capable de sortir les trucs des séries teloches américaines, mais pas la loi française. Non, plus sérieusement, le truc qui est marrant, c'est qu'on parle vachement de la police judiciaire, et en ce moment, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt la justice policière. C'est-à-dire que, on a vu ça en novembre, c'est il y a des circulaires, faut punir à temps, une voiture cramée, c'est en noix, etc., machin. Le juge, il travaille pas dans son tribunal, il faut qu'il aille bosser sous les yeux du préfet et de la police, et en gros, on a eu droit à tous ces... pendant tout novembre, hein. En fait, tous les gens qui sont dans la rue, là, ils sont dans la rue parce que les juges, eh ben, ils font rien. Il faut qu'ils tapent, il faut qu'ils tapent. En gros, le juge, il est là pour défoncer la gueule de tout le monde. La justice, elle n'a pas à être juste, elle a à être exemplaire. Ça, ça a été dit plusieurs fois. C'est-à-dire que on n'est pas là pour donner une peine ou blanchir quelqu'un quand il n'a rien fait. On est là juste pour dire ça... C'est un exemple de voilà, c'est pas on dit que c'est toi, on dit que t'as fait ça et tu dois prendre ça comme ça, tout le monde va être content. Donc on est plutôt dans une sorte de spectacle, des trucs comme ça. Et en ce moment, la justice, je pense, de la façon dont elle fonctionne, c'est pas très palpitant. Donc comme il y a besoin de montrer des trucs un peu chouettes à la télé, un feuilleton policier, c'est mieux quoi.
Et comment tu réagirais par rapport à cette question en fait des liens entre outre ce que tu nous as dit en fait sur les outrages et rébellions assez classiques entre justement cette pression qui est venue de la police vis-à-vis des juges.
Bon, c'est une pression qui est venue de la part d'un certain nombre d'organisations policières, mais qui correspond aussi à un contexte idéologique qui est à l'œuvre et qui est porté par la majorité actuelle et plus spécifiquement par certaines frange de la majorité actuelle, c'est évidemment la frange sarkozienne, d'inspiration américaine. Enfin, vous connaissez le sujet, mais ça avait commencé avant. Hein. Ça s'est mis en place à la fin des années 90. C'est l'idée, en quelque sorte, que la justice, elle est là pour prendre le relais de la police dans le volet judiciaire, pour maintenir la sécurité. Hein. Et ça s'est traduit par une succession de textes pénalisant un certain nombre de comportements qui ne l'étaient pas, remettant en cause un certain nombre de garanties procédurales ou prévoyant des procédures allégées et plus rapides pour permettre d'engranger plus. Hein, de condamnation. C'est aussi ce qu'on appelle le traitement en temps réel, qui fait que les magistrats du ministère public à la fois sont en prise très directe sur le travail des policiers, c'est-à-dire que les policiers, leur téléphone, leur rendent compte très, très simultanément. Hein. Donc c'est un peu comme s'ils étaient les mains dans la procédure des policiers. Et en même temps, ça ne leur permet pas vraiment de contrôler cette procédure, en tout cas tel que ce traitement en temps réel est pratiqué, parce qu'ils n'ont pas les éléments de procédure sur les yeux, parce que de fait, c'est pas eux qui font la procédure, et ce qu'on attend d'eux essentiellement, c'est qu'ils donnent des dates d'audience pour juger les affaires qui leur sont données. Mais l'appréciation sur le contenu de la procédure, sa régularité, compte tenu des conditions dans lesquelles ça se déroule, c'est assez difficile. Et ce qu'il y a de certain, c'est que politiquement, c'est pas le résultat attendu. C'est-à-dire que je rappelais tout à l'heure qu'on avait encore eu des déclarations du directeur général de la police nationale au moment du mouvement de ce printemps, en disant que certaines des condamnations prononcées par la justice n'étaient pas à la hauteur du travail des policiers, déshonoraient le travail, ne faisaient pas honneur au travail des policiers. Bon, c'est qu'un discours de cette nature-là puisse être porté par quand même quelqu'un qui a une position institutionnelle très forte, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment scandaleux.
Et là, est-ce qu'on n'est pas devant un problème de quel est le rôle de la défense ? Parce que si la seule défense des personnes qui sont inculpées, c'est la faute de procédure, parce qu'on est face à... Enfin, il n'y a pas d'argument en face. Comment on fait, quoi ? À quoi ont servi les avocats dans ce cas-là ? Est-ce qu'il y a eu des réductions de peine ? Est-ce qu'il y a eu des acquittements, beaucoup d'acquittements ? À quoi ils ont servi ?
Mais pour les avocats, c'est extrêmement difficile. Ce que peuvent essayer les avocats... Bah, en plus, quand on est dans des procédures rapides comme la comparution immédiate, ils interviennent dans des conditions difficiles. Ils ont très peu de temps pour préparer leur intervention, pour rencontrer le client, pour recueillir des éléments sur la situation précise familiale, de travail, etc. à leurs clients et les apporter au tribunal. Bon. Donc l'outil principal qu'il y a, c'est effectivement de chercher s'il y a une faille dans la procédure pour la faire annuler. éventuellement, c'est d'essayer de montrer les contradictions qu'il peut y avoir dans la procédure, les fragilités qu'il peut y avoir dans le caractère probant ou non de la procédure, mais avec les limites que j'indiquais tout à l'heure. Et puis il y a le dossier miraculeux où il y a quelqu'un qui avait un téléphone portable qui a pris une photo, où il y a quelqu'un qui est capable de témoigner parce qu'il a assisté à ce qui s'est passé et il a réussi à pas se faire interpeller. Mais c'est pas fréquent.
Lire, tu voulais réagir.
Ouais, je voulais dire que pour tout là, pour la défense, ce qui est photo, témoignage, tout ce qui est dans ce qui peut s'être passé de pas correct dans la procédure, pour la comparution immédiate, ça marche pas, quoi. C'est impossible de faire appel à des témoins. Il y a pas mal de gens pour qui les droits élémentaires n'ont pas été respectés. Leur famille n'a pas été prévenue. S'ils avaient un numéro d'avocat, ils n'ont pas eu droit non plus. C'est arrivé assez fréquemment, ça. Et sur la comparution immédiate, on peut pas... Même ça ne suffit pas à faire annuler le truc, le condamner quand même, quoi. Et sur les comparutions immédiates, la majorité des gens sont condamnés, on se pose pas la question. Et vous parliez tout à l'heure des caméras de surveillance. J'ai donc le cas de quelqu'un qui a été accusé de jet de projectile sur une place où qui était bourré de caméras. Évidemment, comparution immédiate à 1h du matin, il n'est pas question d'aller regarder les caméras. Voilà.
Oui, ça montre bien ce que je disais d'une certaine renonciation des magistrats, parce que procéduralement, il y a des moyens de le faire. Ça montre aussi comment le mécanisme de la comparution immédiate et le risque de la détention provisoire assez systématique tétanise la défense. C'est-à-dire que procéduralement, la défense, elle pourrait aussi demander un délai. Tu peux demander un délai dans le cas avant d'être jugé en comparution immédiate. Maintenant, tu risques d'aller en détention provisoire, donc évidemment.
Et vu comment sont les conditions de détention.
C'est pas uniquement ça, c'est que bien souvent, quand tu vas en détention provisoire, pour pas avoir à t'indemniser, après, tu manges la peine de détention provisoire que t'as fait, même si t'as rien fait. Moi, je connais plein d'histoires comme ça. Si t'attends 3 mois, tu sais ce que tu manges.
Bon, on aurait plein de choses à dire encore. On a très peu parlé de l'état d'urgence. On n'a pas du tout évoqué les doubles peines qui ont eu lieu, notamment sur novembre 2005, et qui d'ailleurs continuent à avoir lieu en dépit de ce que claironne Sarkozy en permanence. On aurait pu parler de 20 000 autres choses, mais là, on n'a vraiment plus le temps. Sinon, Écho du Capricorne, ils vont nous détester. Donc, on a juste le temps de vous donner les sites de tout ce beau monde. Donc, pour à toutes les victimes, c'est à toutes les victimes au pluriel .samizdat.net, à toutes les victimes .samizdat.net. Pour la répression du printemps 2006, c'est répression2006.blogspot.com. Et le syndicat de la magistrature, c'est syndicat-magistrature.org.
Merci. Et pendant que Pierre est en train de marcher sur le plateau de l'Aubrac, on remercie tout le monde qui a participé à l'émission. Donc il y avait Alexandrine, il y avait Juliette, il y avait Guillaume, il y avait Jérémy et moi-même, Fred. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait qu'on vous dise ? Qu'il y avait bien sûr le site internet sur lequel vous pouvez écouter toutes les émissions, les reportages, etc. C'est LOLDF, comme les oreilles loin du front, .free.fr. Merci à tous et à la semaine prochaine.